Bonjour tout le monde. Il est un vrai privilège pour moi d'être encore avec vous ici à Toulouse. Et comme j'entends beaucoup parmi vous, je tousse un peu aussi, mais on peut faire un rythme ensemble ce matin, il me semble. Il y a une vieille légende qui raconte l'histoire des bergers qui entendirent des anges annonce de la naissance de Christ. Selon la légende, un berger eut sa fille avec lui dans le champ. Quand les bergers quittèrent le champ pour chercher l'enfant, elle demanda à y aller. Cependant, lorsque les bergers entrèrent les tables, elle fut timide parce qu'elle n'eut pas de cadeau pour le bébé. Soudainement, un ange lui apparut et lui demanda pourquoi elle n'allait pas dans la table. Elle lui dit qu'elle n'avait aucun cadeau. L'ange donc lui dit de cueillir les roses qui poussaient à côté de l'étable. Elle les cueillit et alla dans l'étable pour les donner à Jésus. Et selon l'histoire, quand elle les plaça devant la crèche, Jésus ouvrit ses yeux et lui adressa un sourire. Je sais que cela n'est qu'une légende, mais il me rappelle qu'il y a beaucoup de mystères qui entourent la naissance de Jésus-Christ. Matthieu nous dit, par exemple, dans le texte qui a été lu, que Jésus est né d'une vierge. Mais nous n'avons aucune explication exacte de comment cela s'est produit. Et donc, je ne sais pas exactement comment il est venu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit fut l'agent divin pour provoquer la naissance miraculeuse. Luc, dans son évangile, parle de cette conception miraculeuse en disant, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc il a plu à Dieu de choisir ce moyen pour l'union de son Fils avec l'humanité. Le texte biblique nous a dit que le Saint-Esprit a couvert Marie avec son ombre afin que l'enfant naisse sans l'intervention de l'homme. Cette naissance miraculeuse a été contestée pendant les siècles pour diverses raisons. L'argument favori contre la naissance miraculeuse de Jésus est que nous ne trouvons pas mention de ce miracle ni dans l'évangile de Luc, généralement considéré comme le plus ancien des évangiles, ni chez Paul, ni chez Jean, les deux représentants les plus marquants de la pensée apostolique. Pourtant, je suis certain qu'une personne ne rejette pas aujourd'hui la naissance virginale pour manque d'évidence biblique, car il convient de répondre que chaque auteur biblique n'est pas tenu de nous exposer toute la doctrine chrétienne. Matthieu et Luc, tous deux, enseignent clairement que Jésus-Christ est né d'une vierge. L'ange explique à Marie que son fils ne serait pas le résultat normal du rapport sexuel entre un homme et une femme, mais cette naissance serait le résultat d'un miracle par l'opération de l'Esprit-Saint. Et si les gens aujourd'hui rejettent cette idée, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'évidence biblique, bien sûr. Non, ils rejettent cette idée parce qu'on ne le comprend pas. Parce que cette idée ne s'accorde pas avec la logique humaine, ni avec la méthode scientifique. Et on peut dire, pour cela, peut-être ils ont un peu raison, parce que la science ne comprend pas le miracle de Dieu. La science ne peut pas expliquer la personne de Dieu, la sainteté de Dieu, ni la grandeur de Dieu. Je crois à la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Je crois qu'il est né d'une vierge, non parce que je puisse la comprendre ou que je puisse l'expliquer, mais parce que la Bible l'enseigne. Et j'y crois aussi grâce à la vie que Jésus a vécue. Il y a plus que 2000 ans, qu'au sein d'une petite communauté juive, Jésus fit son entrée dans la race humaine. Il était membre d'une famille pauvre, d'un groupe minoritaire, habitait l'un des plus petits pays du monde. Il vécut environ 33 ans, dont seuls les trois dernières englobaient son ministère public. Pourtant, presque partout, on se souvient encore de lui. Comme quelqu'un a dit, le plus grand homme dans l'histoire, Jésus, n'a eu aucun domestique, pourtant ils l'ont appelé maître. N'a eu aucun diplôme, pourtant ils l'ont appelé professeur. N'avait aucun médicament, pourtant ils l'ont appelé celui qui guérit. Il n'a eu aucune armée, pourtant les rois l'ont craint. Il n'a gagné aucune bataille militaire, pourtant il a conquis le monde. Il n'a commis aucun crime, pourtant ils l'ont crucifié. Il a été enterré dans un tombeau, pourtant il vit aujourd'hui. La date de notre calendrier même atteste que la vie de Jésus fut l'une des plus remarquables jamais vécues. L'écrivain Ernest Renan a dit « Jésus fut le plus grand génie religieux qui ait jamais vécu. Sa beauté est éternelle et son règne ne prendra jamais fin. Jésus est à tous égards unique et rien ne peut lui être comparé. Toute l'histoire est incompréhensible sans le Christ. » Et Jésus a lui-même affirmé être le Fils de Dieu, mais plus que cela, il a vécu une vie sans péché. Personne n'a jamais vécu comme Jésus a vécu. Fin de citation. Ou moi aussi j'aime la citation de l'écrivain anglais C.S. Lewis qui a dit « Je voudrais empêcher quiconque de prononcer cette phrase vraiment insensée qu'on avance souvent au sujet de Jésus. » Je suis prêt à voir en Jésus un éminent maître de morale, mais je récuse sa prétention d'être Dieu. C'est la chose à ne pas dire. Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Cet homme qui réclamait être la vérité, la vie, le chemin, C.S. Lewis continue, « Ce serait soit un fou, soit le démon des enfers. Il vous faut choisir, ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien contre qu'il y en ait, ou pire encore. » Moi, personnellement, je ne peux pas conclure que Jésus était menteur ou un fou. La seule autre solution possible, c'est qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, le chemin pour arriver à Dieu, pour avoir une relation avec Dieu. Je l'appelle donc Dieu. Et je dis qu'il est né d'une vierge. Mais je ne sais pas exactement comment il est venu. Cela reste toujours un mystère. Et je dois avouer que je ne sais pas non plus exactement quand il est venu. Oh, je sais que peut-être quelques-uns vont dire, ah, la solution est simple. Ils diront que Jésus est né il y a 2008 ans, le 25 décembre. Nous ne savons pas pourtant la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Les historiens savent, par exemple, que Hérode le Grand est mort ce qu'on date maintenant en l'an 4 avant Jésus-Christ. Et nous savons, selon Matthieu et Luc, que Hérode était roi durant 1 ou 2 ans après la naissance de Jésus-Christ. Donc, ainsi, la date réelle de la naissance de Jésus est en réalité 5 ou 6 avant Jésus. Donc, je sais que cela semble un peu compliqué. Alors, nous sommes en réalité pas dans l'an 2008, mais peut-être l'an 2013 ou 2014. Il y a eu un moine qui s'appelait Dionysius qui établit notre système de calendrier. En parlant de l'histoire en français, on parle toujours des années avant et après la naissance de Jésus. Toute cette idée vient d'une phrase latine, Anno Domini, ou plus exactement, Anno Domini, Nostri Jesu Christi, qui signifie littéralement An du Seigneur ou An de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce terme évoque l'année supposée de la naissance de Jésus telle qu'elle fut élaborée au VIe siècle. Décrétée en 1, cette année inaugure l'ère chrétienne. Cependant, ce mois a fait une grave erreur mathématique. Il a basé la date sur ce qu'il a compté des Pâques et il eut tort. Mais ce calendrier, le calendrier grégorien, est employé par la majeure partie du monde occidental aujourd'hui, qui utilise de fait une datation faisant référence à la naissance de Jésus-Christ, au christianisme. Tout notre système calendrier est basé sur le travail de ce moine. C'est un bon exemple, ou moi je peux dire c'est une bonne excuse même, je suppose, si vous êtes toujours en retard, le monde occidental entier est donc 6 ans de retard. Donc, c'est pas grave, on peut être toujours en retard. Et nous ne savons pas non plus la saison exacte de la naissance de Jésus. Quelques-uns ont suggéré qu'il fallait découvrir le temps du recensement de César Auguste, dont Luc parle dans son évangile. Mais hélas, l'histoire nous dit qu'il y a eu 4 recensements sur César Auguste et un de celui-ci dura 7 mois. Donc, ainsi, nous ne savons pas exactement quand Jésus-Christ est venu dans le monde. Savez-vous pourquoi nous célébrons sa naissance le 25 décembre? Les Romains avaient une fête qui célébrèrent la fin de décembre. Cette fête marque le solstice d'hiver, le jour le plus court d'année. Nous savons aujourd'hui que ce jour est en réalité le 22 décembre, mais les Romains n'étaient pas trop précis non plus, donc on célébrait ce jour le 25 décembre, et ils s'appelaient leur fête Sol Invictus, une phrase latine qui veut dire « Le soleil est invincible ». C'était une fête païenne pour adorer même le soleil pour sa chaleur et sa lumière. Pourtant, les chrétiens primitifs, remarquant cette fête, décidèrent de parler de la vraie lumière qui est venue dans le monde, le Fils invincible de Dieu, le Fils de justice. Ils se servirent de la même journée, le 25 décembre, parce que c'était déjà un jour férié, donc ils pouvaient prendre ce jour pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et c'était dans l'année 354. Noël a été fixé comme un jour férié dans l'Empire romain, le 25 décembre. Par maintenant l'Église officielle dans l'Empire. Il me semble que cela est très juste, que nous parlons de la lumière invincible le 25 décembre et que nous adorons Jésus-Christ et que nous célébrons sa venue dans le monde. Oui, vous pouvez me dire que Jésus n'est pas né le 25 décembre et je vous répondrai que vous avez raison. Moi, je ne sais pas quel jour il est né. Pourtant, il faut que je choisisse un jour pour célébrer sa venue. Il me semble que la fête du soleil est une bonne occasion pour le faire, parce que Jésus est la vraie lumière. Jésus est la lumière qui est venue dans notre monde pour éclairer tout homme. Oui, je ne sais pas quand il est venu. C'est un mystère. Et je dois encore avouer que je ne sais pas exactement non plus pourquoi il est venu. Ah, je suppose que cette confession vous étonne. Je suis pasteur. Je devrais donc avoir quelques solutions, n'est-ce pas? Quelques réponses. Je devrais savoir au moins au moins la raison pour laquelle il est venu. Oh, je peux citer quelques versets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais après avoir dit cela, je continue à me demander, mais pourquoi? Pourquoi Dieu a tant aimé ce monde? Ce monde est corrompu. Ce monde est rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde. Paul parle dans Romains chapitre 1, ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ce sont quelques-uns des mots dont Paul se servit pour décrire la condition humaine. Et quand je lis toute cette liste, je dois vous demander pourquoi. Pourquoi est-il venu? Oui, bien sûr, je peux citer quelques versets. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais je vous dis encore, pourquoi? Pourquoi Jésus était-il d'accord pour mourir pour les pécheurs? Je ne peux pas vraiment le comprendre. Je connais la condition de mon propre cœur. Et donc, je demande, pourquoi? Pourquoi, Seigneur Jésus, as-tu accepté de mourir pour moi? Et non seulement pour moi, mais pour ce monde. L'évangile de Jean nous dit, alors Pilate prit Jésus, le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, ils disaient, salut, roi des Juifs, et lui donnaient des soufflets. Et quand je lis cela, je me demande encore, pourquoi? Pourquoi a-t-il laissé son trône de gloire au ciel, à côté du Père, la communion parfaite au paradis, pour devenir homme, pour être ainsi maltraité? Oui, je ne comprends pas pourquoi il est venu. La foule criait, crucifie-le, crucifie-le. Il est venu. Et nous l'avons tué. Il est venu, dit Jean, chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Oui, mes frères et mes sœurs, la lumière est venue dans le monde, et la plupart des gens de ce monde ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Et sachant tout ce qui allait arriver, il est néanmoins venu. Incroyable. Je dois vous dire que je ne le comprends pas. Je ne comprends pas un amour si grand et si bon. Oui, il y a beaucoup de mystères qui entourent Noël. Je ne sais pas exactement comment il est venu ou quand il est venu en réalité. Je ne peux pas non plus vraiment expliquer ou comprendre pourquoi il a accepté de venir. Mais je sais qu'il est venu, et je le sais avec certitude. Je le sais parce qu'il m'a pardonné les péchés. Il m'a lavé le cœur. Je sais par la foi qu'il habite en moi et qu'il m'aime. Je ne peux pas comprendre la grandeur de cet amour. Mais en face de celui-ci, je ne peux que tomber à ses pieds et l'adorer. Et remercier, et l'accepter, et le suivre. Il y a un cantique de Noël qui dit, « Le Fils adorable, lui, le roi des rois, né dans une étable, meurt sur une croix. Sa grâce fidèle, pardon aux rebelles. Jésus nous appelle, écoutons sa voix. » Oui, il est vrai que je ne peux pas comprendre cet amour. Mais il est aussi vrai que ce grand amour nous domine, comme Paul a dit aux Corinthiens, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça, c'est le défi que Noël nous lance. Si Jésus est mort pour nous, nous pouvons accepter. Et dans la gratitude, nous pouvons aussi maintenant vivre pour lui. Il est venu. Il n'y avait malheureusement pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Mais aujourd'hui, vous pourrez lui donner la place dans votre vie. Voulez-vous lui dire, Seigneur Jésus, sois le maître de ma vie. Jésus, il n'y avait pas de place pour toi dans ce monde il y a 2000 ans, mais il y a la place pour toi dans ma vie aujourd'hui. Priez avec moi. Oui, notre Dieu, il y a beaucoup de mystères qui entourent la célébration de Noël. Mais le plus grand mystère, c'est que tu as choisi d'aimer et pécheurs. Tu as choisi d'aimer ce monde rebelle. Tu ne nous as pas rejetés. Tu ne nous as pas tourné le dos. Mais depuis la fondation du monde, tu as pensé à envoyer ton fils Jésus. Et lui, il a accepté de venir, d'être né, devenir homme, vivre parmi nous, être rejeté, être tué. Mais il a fait cela comme le sacrifice parfait, afin que nous puissions maintenant avoir une relation avec Dieu. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu as accepté de venir, d'être le sacrifice pour ouvrir la porte entre nous et Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Je voudrais te dire ce matin, j'ai la place pour toi dans ma vie. Ô Seigneur, je voudrais que tu sois le maître, le chef, le Seigneur dans ma vie. Merci. Au nom de Jésus.